7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Régulièrement dans cette émission, vous le savez, nous avons toutes les tendances de la mode avec notre partenaire, le magazine Brune. Quelle source d'inspiration, quel métissage. Bonjour Marie-Jeanne Serbin-Thomas.
Bonjour Emmanuel et bonjour les voisins, bonjour les voisines.
Vous êtes rédactrice en chef de Brune et vous sillonnez le continent africain. Il faut bien dire que peu de créateurs échappent à votre œil de lynx. Également dans le studio, Karima Peroni de Gazelle Magazine. Bonjour.
Bonjour à tous et bonne année, c'est encore le mois.
Et bien voilà, on est ravis de vous retrouver Karima. Vous êtes partie en plus il y a quelques temps en reportage dans le plus grand pays musulman au monde, l'Indonésie. Vous nous raconterez les meilleurs looks islamo-compatibles. Nous causerons textile, coiffure, accessoires. Et bien sûr, nous avons besoin de vous, les voisins et les voisines. Vous avez la parole, alors soyez observateurs. Racontez-nous les plus beaux looks sur le macadam, sur les campus aussi universitaires de vos villes. Mais aussi, pourquoi pas, tout ce qui vous agace, vous énerve. En tout cas, pas d'inquiétude. Hein. Toutes les modes ont une fin. C'est comme les guerres. Sauf que là, ça fait pas de mort. Ça fait pas de mal. Alors, on en profite. On va se crêper le chignon, comme on dit chez nous, mais en toute liberté, en toute frivolité. Et avec un numéro de téléphone, 33 1 84 22 71 71. Surtout, appelez-nous dès maintenant. N'attendez pas la fin de l'émission. On va dire, mais moi aussi, j'ai une image à raconter. Puis, postez vos photos aussi sur le site Facebook, les meilleurs looks et les meilleures tendances de la mode chez vous. Je vous lis quelques commentaires. Ramsès à Conakry nous dit « Le modernisme a rendu ivre mon Afrique, en l'occurrence ma Guinée. Les choses nocturnes se confondent avec les choses diurnes. Les gens n'ont plus peur de se déshabiller le jour. Où va-t-on comme ça ?» Voilà, il y a toujours des conservateurs qui s'inquiètent, mais on s'est toujours inquiétés de tout temps depuis l'Antiquité. Francis s'interroge « La mode est réservée à ceux qui en ont les moyens. » Réponse d'Éric. Alors lui, il a posté une photo et un article sur un défilé de mode en Belgique, de sans-abri qui dorment souvent dans la rue. Et nous dit Eric, ils ont confectionné des vêtements avec des chiffons de récupération. Évidemment, bon, c'est un peu provoque, hein, mais ça dit des choses. Alors, la mode réservée à ceux qui en ont les moyens ou pas, finalement, Marie-Jeanne?
Absolument pas, parce que quand on voit, par exemple, le phénomène des sapeurs, c'est surtout de la récup, c'est surtout de la fripe. Et justement, c'est pour donner une nouvelle vie à des vêtements. Donc, avec très peu de moyens, on peut être très à la
avec
mode.
Très peu de moyens, mais
il faut avoir du goût d'abord.
Du style, et puis il faut être tout de même pas trop préoccupé par sa survie au quotidien.
Oui, hein, bien sûr, mais
partie de l'esprit un peu libre.
Oui, il faut partir de l'esprit libre, mais surtout c'est la créativité en fait, hein, et c'est ce qui est intéressant, c'est que les véritables personnes qui sont les précurseurs de mode, les prescripteurs de mode, sont souvent des gens qui sont dans la rue, et ce sont ça a été un vêtement de travail qu'on utilise, donc ce n'est pas du tout une histoire de moyens. Et aujourd'hui il y a une démocratisation du goût, puisque il n'y a pas une mode, il y a des modes, et qu'il n'y a pas une tendance mais des tendances. Donc
et puis récemment nous faisions une émission sur les supporters de foot, et on avait un auditeur, un voisin qui nous appelait de Kinshasa pour nous dire que durant son enfance on n'avait pas de quoi s'acheter des maillots de foot, et on les fabriquait avec des sacs plastiques, les rayures qui correspondaient au drapeau, etc. Et c'était tout de même un assez bon souvenir. Et puis là, il y a toujours des voisins inquiets aussi, surtout des garçons. Soul qui pose la question, moi je voudrais simplement savoir à quoi reconnaît-on la beauté d'un homme. C'est pour vous la question.
La beauté d'un homme. Bon, moi je suis très sensible au regard, c'est vrai, et je pense que la beauté d'un homme, c'est surtout ce qu'il dit à travers son regard, un sourire sain aussi. Et puis on va pas se mentir, hein, les filles, on regarde aussi un peu plus bas comme les garçons.
Les pieds, tu veux dire?
Voilà, un petit peu plus en haut. Non, la beauté d'un homme, je pense que c'est surtout la gentillesse et le respect qu'il aura envers la femme qui regarde.
Voilà. Que répondra Soul pour vous, Marie-Jeanne? À quoi reconnaît-on la beauté d'un homme? Il a l'air très inquiet, ce garçon.
Moi, je crois que c'est surtout le cœur qui parle. C'est pas le physique, parce qu'il y a parfois des hommes qui n'ont pas un physique très harmonieux, mais qui arrivent à dégager tellement de chaleur, tellement de sympathie, tellement d'humanité qu'en fait, on le trouve merveilleux. Donc, contrairement aux femmes, les hommes sont facilement plus beaux quand ils sont humains, quand ils sont intelligents, quand ils sont brillants.
Et quand ils prennent de l'âge aussi.
Et quand ils... Non, parce que les petits garçons aussi, aussi sont parfois croquants, craquants. Donc, je crois qu'il faut laisser vraiment parler son cœur, ses neurones, et ne pas avoir des critères, hein, oublier les critères de beauté pour les hommes.
Allez, appelez-nous maintenant les meilleures tendances de la mode ou tout ce qui vous agace chez vous, sur les campus universitaires, dans votre quartier, dans votre ville. 33 1 84 22 71 71.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On va faire du boom
sur RFI.
Du show.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures, aller vers l'inconnu.
Tu rates, tu meurs. 1000 regrets aux absents.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Ouais, on est tous voisins, mais tous les looks ne se ressemblent pas tout de même, et toutes les modes ne se ressemblent pas, et c'est tant mieux. Sinon, quel intérêt de se parler chez 7 milliards de voisins sur RFI. Karima Peroni, alors ces Indonésiennes, vous avez passé quelques jours à Jakarta, est-ce qu'elles vous ont bluffé?
Alors oui, c'est vrai que c'était un chic panorama que j'ai eu l'occasion de découvrir fin novembre, j'ai pu voyager en Indonésie. Alors, ce qui était intéressant, c'était de voir les différents looks, c'est vrai, dans la rue. Alors, il y a ce qu'on appelle une mode pudique. Donc, on rappelle que l'Indonésie, c'est la population musulmane la plus importante au monde. Ce n'est pas un pays musulman, c'est un pays dit laïque. Mais c'est vrai qu'il y a 80% des personnes sont musulmanes. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui portent le voile. C'est un voile pudique, donc ça sera pas un voile ostentatoire comme ce qu'on peut voir dans les pays du Moyen-Orient. Les filles se maquillent très très peu dans la rue en général. Mmh. Les fillettes aussi se voilent. Elles axent par contre tout sur les tissus, parce qu'elles ont aussi une grande tradition autour du tissu qui s'appelle le batik. Donc c'est vrai que le choix des tissus, c'est toujours des tissus de très bonne qualité et avec des très jolis motifs, mais ça reste quand même raisonnablement sobre. En revanche, dès qu'on commence à rentrer dans une partie,
pas de paillettes, de perles brandées. Non. Des choses comme ça,
très,
voile.
Ça c'est pour la vie quotidienne de tous les jours. En revanche, elle mise tout sur les grandes occasions. Et alors là, quand il y a des occasions comme des anniversaires, des mariages ou des fiançailles, là, ça devient bling bling, mais à fond, c'est très très impressionnant. Donc là, les tissus, on se part de tous les tissus avec différentes matières. On a de la mousseline, des paillettes, et les couleurs aussi vont être très très chatoyantes. Beaucoup de maquillage. Et en fait tout ça se mixe en fait entre les deux, les femmes indonésiennes du coup peuvent travailler. Alors elles peuvent travailler avec le voile, ça c'est sûr. Elles aiment se maquiller quand elles sont dans les grandes occasions, et tous ces concepts là sont repris lors des Fashion Week, parce qu'il y a une Fashion Week
justement,
très importante.
J'allais vous poser la question, en fait, quelle est la place de la mode, parce que bien sûr on est dans une région en Asie où il y a beaucoup d'industries textiles, mais est-ce qu'il y a de la créativité des stylistes des Fashion Week?
Alors de plus en plus en Indonésie, ils sont en train d'organiser ce qu'on appelle la Fashion Week de Jakarta, qui fait un petit peu écho à celle qu'on peut trouver en Malaisie. Et c'est vrai qu'en Malaisie, il y a aussi ce qu'on appelle la mode islamique, donc ils reprennent un petit peu les mêmes codes, avec toujours cette particularité de mettre en avant les créations des campagnes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, donc c'est bien, c'est aussi de la mode éthique. Il y a beaucoup de femmes qui habitent dans les campagnes, qui vont participer à cette création autour de la mode.
Avec des coopératives de femmes, par exemple.
Exactement.
Qui en profitent économiquement.
Beaucoup de perles, beaucoup de travail autour des tissus aussi, du batik, etc. Et c'est vrai que cette émergence crée beaucoup d'emplois. C'est quelque chose de très prometteur et une croissance incroyable. Alors, il y a même le gouvernement qui va payer des formations à des créateurs pour aller étudier en Europe, pour faire leur classe en Europe et revenir avec plein d'idées occidentales. Et ce qui donne un très joli mix entre des codes occidentaux et un travail occidental, une technicité occidentale avec des tissus et des matières premières qui sont plutôt traditionnelles.
Ouais. Alors, le voile, en général, une longue tunique et en dessous, un pantalon.
Alors, c'est pas le même voile.
On n'est pas en jean moulant avec un voile comme dans certaines capitales du Moyen-Orient.
Ou du Maghreb, effectivement. Oui. C'est vrai que là, on n'a pas les jeans, mais c'est pas non plus aussi couvrant qu'en Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'elle porte pas le djellbab. J'ai vu très peu de djellbab. Par contre, c'est vrai que c'est un hijab. Donc, le hijab, c'est un grand voile qui va couvrir jusqu'aux épaules. Mais ça reste, c'est très sobre, très digne, très simple. C'est vraiment, j'étais même étonnée. Je pensais qu'elles allaient être un peu plus coquettes que ça. En revanche, dès qu'on va un petit peu dans les quartiers plus tendance, dans les grands centres commerciaux, là, clairement, on va voir des femmes qui sont complètement dans les codes occidentaux. Donc là, c'est la mode qu'on voit tous les jours.
La mode est aussi une question de moyens financiers. C'est vrai, on va pas se voiler la face. Marie-Jeanne Serbin-Thomas, la mode, c'est la différence, c'est la diversité. C'est aussi votre choix à vous, les voisines. Alors vous, vous interrogez dans le magazine Brune sur le pouvoir des postérieurs, sans transition.
Oui. Alors je pense que peut-être qu'en Indonésie, on doit bien les voiler, bien les cacher. Mais effectivement, on a remarqué depuis quelques années avec l'arrivée de certaines stars, qui, des chanteuses en général, qui pour vendre leur voix montrent leurs fesses. Parce qu'il s'agit de fesses, bien sûr. Alors, c'est la nouvelle mode, c'est-à-dire avoir non pas seulement des fesses, mais des grosses fesses, et des belles grosses fesses. Et ça nous apparaît un sujet de société, parce que récemment, j'étais au Congo, et j'étais en face d'une jeune fille. Alors, je pensais que c'était une bimbo un petit peu bébête.
À Brazzaville. Hein.
À Brazzaville. Et elle mettait en avant vraiment ses fesses de façon très très provocante. Et je me suis mise à discuter avec elle et j'étais estomaquée parce que c'est une fille qui a une licence, qui est brillante, mais qui s'aime comme ça. Donc elle est hyper pulpeuse. Et donc c'était très très intéressant de voir qu'aujourd'hui c'est pas seulement si vous voulez des jeunes filles fascinées par la mode, un petit peu prises par ce mouvement, mais aussi vous avez des intellectuels qui veulent se mettre en avant. Qui cherchent des robes moulantes.
Ou des femmes d'affaires redoutables, comme aux États-Unis, Kim Kardashian, photographiée par Jean-Paul Good, avec des millions de vues pour,
tout à fait.
Pour ses photos de postérieurs très proéminents.
Voilà. Alors, il faut savoir que cette image, c'est un remake d'une photo qui avait eu lieu dans les années 90 avec la chanteuse Grace Jones, toujours par Jean-Paul Good, et Grace Jones était beaucoup plus gracieuse que Kardashian. Donc voilà, les
Grosse fesse. Plus d'argent aujourd'hui,
Oui. Et puis c'est devenu un business.
Voilà. Donc, les fesses au pouvoir, vous vous interrogez dans l'article, c'est pas seulement une référence érotique, finalement, mais aussi un choix personnel assumé par des filles qui ont envie de provoquer.
Bien sûr, pas seulement provoquer, mais vous savez, c'est comme les gros seins aux États-Unis. À un moment, si les comédiennes ou les chanteuses n'avaient pas de gros seins, elles ne passaient pas. Donc,
il y a un truc que j'ai quand même adoré dans l'article de Bruna, Marie-Jeanne. Côte d'Ivoire, vous dites, il est coutumier de dire qu'une femme aux fesses généreuses est comme une réunion du PDCI élargie au comité central.
Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, il y a plein de monde. Ou alors, on dit qu'elle est nombreuse.
Voilà. Alors, en ce moment, le parti d'Henri Conan-Bédier est tendu comme une fesse botoxée. On peut peut-être le dire à l'approche de son congrès extraordinaire. Non, je ne sais pas.
Oui, c'est certainement ça. Non, mais il faut voir que... entre le recul qu'on peut prendre par rapport à ça en rire, et puis les filles qui vont faire toute la gym, qui vont utiliser des produits absolument incroyables, il y en a qui se mettent des suppositoires à base d'arômes.
On va pas donner de mauvais conseils non plus, c'est dangereux pour la santé.
Voilà, c'est dangereux pour la santé, et puis ça ne marche pas. Qui recherchent sur internet de comment se faire des grosses fesses comme on se fait maigrir. Donc voilà, c'est devenu vraiment une mode et c'est étonnant.
En même temps, dans le magazine Brune, vous continuez quand même d'afficher. Enfin, vous montrez quelques derrière, je veux dire, assez pudiques, mais assez modestes.
Oui, parce qu'en fait...
N'embrayez pas.
En fait, on préfère doper l'intellect que le bas, voilà.
D'accord. Mais vous faites l'écho. Karima, qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense, j'avais aussi écrit un article dessus dans Gazelle. Je pense qu'effectivement, c'est un véritable phénomène de société. Ça en dit beaucoup aussi sur les sociétés d'aujourd'hui. Et en fait, c'est plus que, en fait, il y a beaucoup d'icônes qui ont émergé avec ce phénomène des bad filles. Alors, carrément, sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, c'est devenu
beaucoup
l'un
de
des hashtags.
Et d'ailleurs, métis et tout, ce qui veut dire aussi que, on est
l'un
vraiment dans un brassage culturel.
Les plus importants sur Instagram, c'est les bad filles. Il y a même des icônes qui se sont fait connaître que grâce à leur postérieur. Donc par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une fille qui s'appelle Jen Selter qui était une prothésiste dentaire et qui s'est fait connaître juste en postant des photos de ses fesses, et aujourd'hui elle est millionnaire.
Et pas très bien. Vous me laissez sans voix. On va donner la parole à des auditeurs qui nous appellent pour décrypter des tendances chez eux. Ça sera juste après Elephant.
So let's I'm home, roll up a shriek, now my beer is cold. I put my headphone on, make a blood beam, and soon I'm a zone, I'm a grooving. Gotta keep grooving, get the groove for life. Rhythm is my window, it's me hope, it's me light. I gotta stay true, y'all, this it is free. I gotta hold on, now, this time is me. And my man, Raz G, hey, did the cook a rock, stop a melody. Hey, you.
saw you, bro. You're like a brush in my ass. Stop. Source of life, take heed from the word of the wise. When I'm down and out and I need some strength, music can keep me alive.
Music is life chez 7 milliards de voisins. La mode aussi, c'est la life. On en parle sur RFI une fois par mois avec notre partenaire, le magazine Brune, et Karima Peroni du magazine Gazelle. Nous sommes en ligne avec Zoé qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Zoé.
Bonjour.
Vous êtes à Kampala en Ouganda.
Oui, je suis à Kampala en Ouganda.
Vous êtes étudiant sur le campus de Makerere?
Je suis étudiant à Sikkim.
D'accord, très bien. Alors, vous souhaitez nous parler d'une tendance, falloir un peu nous expliquer, hein. Lunettes de soleil, mais portées la nuit. J'ai pas tout compris.
Oui, je parlais, c'est une nouvelle mode. Ouais. En fait, c'est une tendance. On a adopté des lunettes. Donc, tout le monde met des lunettes. C'est pas pour le soleil, c'est pas parce qu'il y a trop de soleil, mais c'est parce que c'est une mode. Donc, vous mettez ça par rapport aux couleurs que vous avez mis. Par exemple, quand vous avez mis un pantalon bleu, cela dépendra. Donc, les lunettes que vous mettrez dépendra du pantalon que vous avez mis.
Ah oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir plusieurs paires de lunettes de soleil pour le soir.
Oh oui. Vous pouvez avoir plusieurs paires de lunettes, même dans des boîtes de nuit. Maintenant, on peut déjà mettre des lunettes solaires et puis c'est une tendance vraiment. Et là, ça date par rapport au clip américain. Donc,
ouais.
Les gens, c'est comme des compétitions. Celui qui va mettre les premières lunettes que Lil Wayne ou Chris Brown a mis dans un clip.
D'accord, on voit les références.
C'est une tendance.
Ouais. Bah, c'est bien parce que déjà dans les villes africaines, quelquefois, on ne voit pas très clair la nuit, mais alors là, on ne voit plus rien, quoi.
Il y a des lunettes, ça dépend des lunettes. Il y a des lunettes que vous mettez la nuit, vous pouvez voir quelque chose.
Oui, qui ne sont pas trop foncées.
Bon, c'est une tendance, vous ne bougez pas trop.
Bon, Marie-Jeanne Servin-Thomas rigole bien, là, dans le studio. Et vous sentez, je ne sais pas si vous êtes ougandais ou pas, Zoé, parce que ma question, c'était un peu, est-ce qu'il y a une différence avec la mode en Afrique anglophone?
Vous dites?
Est-ce que vous êtes ougandais ou pas du tout, Zoé? Vous vivez à Kampala?
Je vis à Kampala, mais je ne suis pas ougandais, je suis congolais.
D'accord, très bien. Et vous sentez une différence justement entre de l'autre côté de la frontière, l'est du Congo, et puis la mode à Kampala?
C'est pas la même chose, parce que au Congo, on adopte plus les vestes, les chemises, mais ici, ce sont des jeans, des t-shirts, des perpèches, des choses comme ça. Mm. C'est un peu différent, c'est trop différent.
Mm. Marie-Jeanne, vous connaissez la mode à Kampala? Vous connaissiez cette tendance-là, lunettes de soleil portées nuit pour
C'est ce qu'on appelait la tendance nightclubber. Mais que ce soit, en fait, lunettes assorties au pantalon, ça, j'avais jamais vu. Mais je trouve que c'est joli comme idée. Bon, après, il faut avoir de bons yeux, une bonne vue. Mais visuellement, ça peut être très, très sympa d'avoir ça.
Moi, j'ai une question à Zoé. Est-ce que quand vous voyez une jolie fille, vous les retirez, vos lunettes de soleil, pour la draguer?
Pour montrer vos yeux, Zoé. Il reste quelques secondes avant le flash pour cette question fatidique.
Vous dites ?
Est-ce que donc vous retirez vos lunettes de soleil pour montrer vos yeux quand vous rencontrez une jolie fille ?
Pas vraiment, parce que parfois les lunettes de soleil aussi, vous...
Ouais, elles pourraient être déçues, c'est ça ? Allez, on se retrouve dans 3 minutes juste après le flash. Nous parlons de la mode chez 7 milliards de voix.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins et de voisines. Nous sommes sur la planète mode aujourd'hui, un peu sur un nuage de légèreté, mais ça fait du bien au moral. Marie-Jeanne Serbin-Thomas est dans le studio du magazine Brune. Karima Peroni, la gazelle du magazine du même nom. Et vos appels au 33 1 84 22 71 71. Après les lunettes de soleil portées la nuit et avec la question qui tue de Karima Peroni à cet auditeur Zoé qui nous appelait de Kampala en Ouganda. Oui, mais pour draguer une jolie fille, peut-être mieux d'enlever les lunettes. Hein. Surtout, vous nous le disiez, vous, c'est les yeux, hein, Karima.
Voilà.
C'est les yeux qui comptent chez vous. C'est le regard. On attend vos appels. Nous prenons Alpha qui nous appelle donc au standard de 7 milliards de voisins, qui est à Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo. Bonjour Alpha.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les voisins et toutes les voisines.
Vous nous appelez pour nous parler d'une mode qui vous agace chez vos élèves, parce que vous êtes prof.
Ah oui, c'est super amusant Emmanuel. Vous savez, il y a cette mode qui fait rage dans nos écoles et peut-être partout dans nos cités à Lubumbashi. C'est qu'on constate beaucoup plus chez les garçons le port de petits pantalons, c'est-à-dire des pantalons très serrés et des chemises très serrées. En bon français, on parlerait des chemises taille, mais ici à Lubumbashi, on parle de pantalons tanga d'habit.
Ouais, c'est-à-dire littéralement.
C'est-à-dire, c'est trop serré là au pied.
D'accord.
Pour le sortir, peut-être il faut un peu d'aide.
Ah oui, d'accord.
C'est ultra slim.
C'est ça, le soir on appelle sa maman, c'est ça.
D'accord. Ainsi, ça nous cause beaucoup de lacunes. Vous savez, quand un élève a cela sur lui, et cela déforme d'abord sa démarche. Il ne sait pas faire des grands pas.
Ah oui.
Il doit bien contrôler tous ses mouvements.
Oui.
Au risque de voir cela se déchirer.
Ah oui, d'accord, ça va quand même, ça va très loin là, ces vêtements serrés. Donc, parce que là, vous nous parlez du pantalon et aussi de la chemise Alpha que portent vos élèves, extrêmement serrée.
Oui, oui. Il n'a pas droit à des grands mouvements. Et quand il fait quelque chose qui ne marche pas à l'école, vous ne savez pas comment lui donner un travail manuel comme punition. Il ne saura même pas le faire.
Parce qu'il ne peut pas bouger, c'est ça, il peut juste s'asseoir et écrire dans son cahier.
Voilà tout ce qu'il faut, s'asseoir ou se tenir debout, c'est tout. Et c'est très pénible, je vous dis.
Et vous en discutez avec vos élèves de cette mode qui a quand même atteint peut-être des extrémités un peu difficiles?
Personnellement, j'essaie de tenter avec eux, mais c'est difficile de vous écouter parce que dans toutes les écoles, quand un parent achète un pantalon quand même bien, bien cousu, vous allez voir l'élève prendre ses pantalons, le remettre auprès de notre couturier. Celui-là va le modifier pour le rendre très petit.
Ah oui, d'accord. On fait reprendre tous les vêtements.
Ah oui.
Marie-Jeanne Servin-Thomas.
Mais je pense que ça, c'est propre aux jeunes. Moi, je suis maman d'une adolescente. Je crois qu'il m'est impossible de lui faire porter une jupe. Donc, elle met que des jeans slim du 1er janvier au 31 décembre. Et je lui ai acheté des pantalons droits, des pantalons à pinces. Elle les cache. Donc, on ne les trouve pas. Donc, mais bon, ça n'empêche pas de fonctionner. Je fais attention.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, les adolescents disaient au contraire qu'ils voulaient se sentir libres de leur mouvement, hein, avec des pantalons baggy très, très amples. C'était fait pour faire du skate, jouer au ballon, etc. Là, ils ne peuvent plus bouger du tout, du coup.
Voilà, en fait, il y a une espèce de narcissisme qui fait qu'on s'occupe d'abord de son corps, de soi, et on est, en fait, quasiment en offrande, c'est-à-dire qu'on se met le mieux.
Ça va loin, là.
Non, mais on se met le mieux qu'il soit. À la limite, si on ne peut pas bouger, on est un spectacle. Alors que, voilà, on n'a pas besoin de montrer qu'on est fort, on n'a pas besoin de montrer sa puissance. On est là, on est beau, et puis admiratif. Et, mais c'est vrai que c'est une démarche qui est assez particulière parce que si on ne peut pas se mouvoir et je pense que le concours sera le pantalon peut-être le plus serré hein, et la chemise
en étouffée Karima.
Et puis ça va tout simplement avec la tendance du bottilicious hein, comme on parlait tout à l'heure des fesses, où plus le pantalon va être serré, plus il va mettre en avant le derrière des fesses c'est complètement tendance aussi, ça va de pair.
Bon, l'avantage Alpha, c'est que vos élèves ne sont pas turbulents, j'imagine, en classe hein, s'ils peuvent pas bouger.
C'est une camisole de force, en fait.
Un peu plus sage.
C'est ça. Très bien. Bon, très bonne journée à Lubumbashi. Merci pour ce témoignage de ce phénomène de mode qui a totalement immobilisé les élèves à Lubumbashi et sûrement ailleurs. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Ali est en ligne avec nous. Vous êtes pas très loin de Thiès au Sénégal, je crois, Ali. Bonjour.
Oui, bonjour Emmanuel.
On vous écoute.
Bonjour Emmanuel. Bon, la mode fait de la priorité ici au Sénégal, chez les garçons comme chez les filles. Bon, la plupart des élèves préfèrent des habillements de mode très, très chouette, venant des stars et aussi venant des joueurs. Bon, chez les filles, en allant au marché, on achète des tissus qui font de la priorité, par exemple le Gesner, le Danila, le soie et beaucoup d'autres tissus. Mais en achetant ces soies aussi, bon, on va chez le tailleur, bon, elles vont faire des coutures de telle sorte que ça fait des habillements qui font de l'actualité, par exemple les tailles basses, les marinières et les corinières,
ouais,
et ainsi de suite.
Oui, mais alors il y a une mode assez récente dont vous souhaitiez nous parler, Ali, qui est intéressante en termes de coiffure, hein, pour les garçons, cheveux rasés sur le côté, sur un seul côté, oui, et plus long au milieu. Rasés des deux côtés et plus long au milieu, c'est bien ça? J'ai bien compris?
À ce qui concerne la coiffure chez les garçons.
Ouais, ça viendrait pas un peu des joueurs de foot, ça?
Parce qu'il y a une coiffure très réputée qui a été connue en 2002 par un joueur qui s'appelait Dabara. Et c'est quoi fait de l'actualité jusqu'à présent ici au Sénégal.
Marie-Jeanne veut intervenir. Elle veut ajouter son grain de sel là, sur les tempes rasées, la coupe longue sur le milieu du crâne.
Alors, c'est un look qu'en fait qui existait déjà dans les années 90 avec Mike Tyson, le boxeur, avec Grace Jones aussi. Et c'est d'abord la coiffure des Iroquois, des Indiens donc d'Amérique, qui se coiffaient comme ça, qui avaient ce style-là. Et ensuite, ça a été pris par les boxeurs, par les femmes aussi. Et aujourd'hui, en fait, on rase des deux côtés, mais on tresse. C'est-à-dire qu'on a des espèces de locks qui tombent comme ça. Et ce sont essentiellement les garçons qui les font, effectivement.
Alors, pour les filles, il y a une tendance récente aussi, question coiffure, chez vous, Ali, au Sénégal.
Oui, parce qu'il y a une coiffure qu'on appelle ici dégradée. Dégradée, par exemple, on enlève les cheveux sur le rebord de la tête. Après avoir enlevé les rebords, on va clarifier les épiphores.
Ouais. Alors, la ligne se dégrade, Ali. Hein. Je suis désolée, on va pas pouvoir vous donner la parole trop longtemps, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez bien expliqué au standard qu'en fait, pour les filles, on fait des tresses longues et puis on retresse sur le dessus du crâne pour faire une espèce de petite couronne. Et c'est une mode qui a été lancée par Maréma Fall, la chanteuse, qui a d'ailleurs remporté le prix RFI Musique. Donc, on est très fiers. Voilà. Ça vous dit quelque chose, cette espèce de petite, on va dire une sorte de choucroute tressée sur le sommet du crâne pour les filles, ça.
Il y a ça aussi, mais il y a aussi ce qu'on appelle
de hauteur aussi.
Oui, alors, j'ai remarqué aussi à Dakar qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes qui avaient des dégradés de couleur, c'est-à-dire qu'elles faisaient des tissages, donc la base est noire et le bout du tissage est blond, et elles font après des coiffures assez extravagantes avec ça. Elles osent, par exemple, raser un côté, avoir juste le côté blond de l'autre. Enfin, c'est très 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 inventif, et aujourd'hui, pour se coiffer vraiment mode, il faut aller à Dakar plutôt qu'à Paris.
Voilà. Bon, vous pouvez continuer de nous appeler. Merci Ali pour ce témoignage. 33 1 84 22 71 71. On en reparle. On va parler de coiffure justement, parce qu'il y a tout un article dans Gazelle avec un match, hein, avec des nouveaux produits pour se lisser sans se défriser vraiment les cheveux. On va en parler avec vous, Karima Peroni. Ça sera juste après Beg for It. But I'm worth it, baby. Can't play with you, I've been busy working, baby. Getting faded in a European swerving act. Look, scribe biggie groundbreaking, what the word is. Hit the stage, ass shaking like I'm nervous. When in New York, I be poking around a medicine. This ain't no accident, I'm killing them on purpose. IGG, why did she just ever do it, baby? Ride with me. Fly living, ain't nothing to it. And my waist slim, ass fat. You gotta have it, get my bacon. Cake long, that's automatic. You're going home alone. I guess you'll hide.
claiming by the hour. I need me a brave heart, can't deal with a coward. I tell him if he ain't ballin', he should hit the shower. If I pick you, you lucky, baby, this money hour. Or yellow gold on me like I'm Trinidad. Sitting drop top, wonder where the ceiling's at. I know my old thing, wanna bring the feeling back. But I got a new thing, baby, I ain't feeling that now. Can't you see that everybody wanna put their hands on me? See, I be on this money while your man on me. And I need another hand with all these bands on me. Wait.
Aléa, Beg for Each et 7 milliards de voisins sur RFI, toutes les tendances de la mode aujourd'hui. On connaissait Miss Black France, une Miss choisie exclusivement parmi des candidates noires. Ça ne date pas d'hier. Lors de son lancement en 2012, ce concours de beauté avait fait couler d'ailleurs beaucoup d'encre à ce moment-là. Une nouvelle élection de Miss a vu le jour à Paris, c'était en novembre dernier, c'est celle de Miss Nappy. Nappy, c'est la contraction en anglais de Natural and Happy, ce qui veut dire en fait des cheveux crépus qu'on laisse comme ça tranquilles, vivre leur vie. 20 candidates à la chevelure assez volumineuse étaient scrutées par un jury composé de mannequins, artistes ou journalistes mode. Charlie Dupiot s'est faufilé avec son micro au premier rang, aux côtés de plusieurs centaines de spectateurs, d'ailleurs curieux, il faut dire aussi beaucoup, beaucoup de coupes afro ce jour-là.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, on célèbre la beauté, toutes les beautés, mais particulièrement la beauté naturelle, la beauté noire dans sa diversité, la beauté fière. Merci. Alors elles sont 20 qui seront revêtues de différentes parures juste pour vous. Bien sûr, il faudra faire attention aux silhouettes, mais surtout aux cheveux, évidemment.
Surtout.
Bonjour, je suis Valérie Bonnefond, je suis l'organisatrice du Nappy Days Event qui a lieu ce soir. Alors là, nous allons voir donc le premier passage avec les filles avec leurs cheveux naturels, comme elles sont à peu près tous les jours. Après, il y aura donc le passage en tenue de créateur, il y aura le passage maillot. Ensuite, il y aura le passage avec les tenues de soirée.
On assiste effectivement à un retour aux cheveux naturels hein, chez les femmes noires ou métisses. Pourquoi est-ce qu'on a besoin forcément d'élire une Miss Nappy, une Miss aux cheveux crépus ?
C'est pas si évident que ça justement pour les personnes de porter leurs cheveux crépus. Donc même s'il y en a de plus en plus, c'est pas quelque chose qui est rentré dans les mœurs. De toute façon, c'est vrai qu'on le phénomène arrive à Paris ou en France, mais c'est déjà aux États-Unis depuis 7 ans au moins. Il y a des shows natural hair qui se font dans toutes les villes des États-Unis. Il y en a énormément. Il y a une communauté Nappy qui est très forte. Mais c'est vraiment des shows avec des coiffeurs. C'est pas forcément des élections de Miss, on va valoriser le cheveu afro. Il y a des salons, il n'y a pas forcément d'élection de Miss proprement dit.
Bonjour, vous êtes venu assister à ce défilé de la première élection de Miss Nappy en France et vous avez une coupe afro qui a du volume. Alors depuis quand est-ce que vous portez cette coupe ?
Et en fait, je défrisais mes cheveux avant. Et il y a 5 ans, en fait, une amie qui a arrêté de se défriser les cheveux m'a convaincue. Et au début, j'appréhendais un peu parce que c'est vrai que j'ai commencé en fait en cabinet d'avocat, donc comme secrétaire juridique. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que j'avais peur en fait qu'on me dise mais enfin, il y a des clients, ça peut être des personnes connues. Donc c'est vrai que les employeurs après ils demandent une certaine tenue vestimentaire, pas s'habiller n'importe comment, se coiffer n'importe comment, avoir un langage trop négligé. Donc c'est vrai que Moi, j'avais un peu peur de ça. J'avais peur d'arriver et qu'on me dise, mais non, enfin, c'est pas possible, pas chez nous, quoi. Et j'ai jamais eu ce genre de réflexion, donc heureusement. J'étais un peu l'attraction du cabinet, mais c'était bien. Et j'avais des appréhensions parce que beaucoup de gens supposent que quand on laisse le cheveu afro comme ça, c'est-à-dire que c'est de la négligence, on a les cheveux négligés, même dans les salons de coiffure pour cheveux noirs, pour cheveux afro, quand on y va avec nos cheveux comme ça, c'est « Ah non, je ne coiffe pas les cheveux négligés », alors que ce ne sont pas des cheveux négligés, bien au contraire. On en prend beaucoup plus soin, en fait, maintenant qu'on est naturel, parce que là, maintenant, il faut faire attention à la casse, il faut faire attention à tout, en fait, à un peu de tout.
Comment vous faites pour garder une image de « working girl », si on peut dire, de femme qui travaille avec cette coupe afro?
En fait, je me pose même plus la question de savoir si je vais assumer ma coiffure. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je me lève le matin et que si je dois aller travailler, je vais sortir avec mes cheveux comme ça. Ou des fois, je vais même sortir avec un foulard. Je vais faire un attaché de foulard et puis je vais trouver ça très bien aussi. On me demande d'avoir une certaine tenue. Pour moi, c'est justement quand on me dit tenue correcte exigée. Moi, mon afro fait partie de ma tenue correcte exigée. C'est-à-dire pour moi, c'est tout à fait correct pour aller travailler, pour aller en soirée, pour sortir, pour aller à un événement comme aujourd'hui. Moi, je trouve ça très bien. Il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça, en fait, en France. Et là, on a notre identité, un peu. C'est-à-dire que maintenant, sortir avec son afro, c'est plus un problème, en fait. Avant, c'était « Ah, mais tu t'es pas coiffé !» Alors que maintenant, c'est « Oh, ils sont beaux, tes cheveux !» Ah oui, c'est devenu une tendance. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter là. Je pense que ça ne fait que commencer.
Voilà, pour cette élection de Miss Nappy, Marie-Jeanne Serbin-Thomas veut absolument réagir sur cette élection qui s'est déroulée en région parisienne.
Oui, c'est ce que je disais, out of record, c'est que, en fait, c'est un phénomène qui est très diaspora. Ça ne prend pas du tout en Afrique.
Là, le fait de laisser ses cheveux comme ça crépus,
voilà,
naturel.
J'ai fait au moins 5 ou 6 défilés en 2 mois sur Abidjan, sur le Congo, le Sénégal. Et je vous assure, sur 99, sur 100 femmes, il y en a 99 qui ne sont pas du tout nappies et ça ne prend pas du tout.
Alors, Evelyne à Douala vient de poster à Douala. Je vois que beaucoup de femmes commencent à entretenir des cheveux naturels avec des produits assouplissants plutôt que de les défriser comme avant. On serait donc tenté de dire que l'ère des défrisants commence à s'estomper.
L'ère des défrisants commence à s'estomper parce qu'on les remplace par les perruques et quand on a une perruque, on n'a pas besoin de se défriser. Donc, ou alors quand on a un tissage, on n'a pas besoin de se défriser non plus.
Donc la sculpture afro dans les cheveux n'est pas pour demain.
Je veux dire, en tout cas, moi, ce que je vois dans les rues, dans les villes, dans les soirées, dans les cocktails, dans les fashion shows qui sont souvent prescripteurs de mode, même le choix des, par exemple, des stylistes de coiffer les mannequins, ça fait 3 mois que vraiment j'ai fait beaucoup de défilés, j'en ai pas vu un seul.
Bon, mais il y a toujours ces doubles tendances dans les modes, hein. Ceux qui essayent d'en imposer, d'autres qui résistent.
Heureusement. Mais je pense que c'est très lié à une question d'identité diasporique. Ouais.
Et même en France, le phénomène tend un petit peu à s'essouffler. Et c'est vrai qu'on voit les nappies, surtout dans des milieux qui vont être des milieux de la mode, dans des milieux de création. C'est vrai qu'une femme qui travaille à la banque, elle va pas facilement arborer une afro de tous les jours.
Ouais, vous êtes sceptique, malgré les témoignages qu'on vient d'entendre.
Même si c'est très prometteur et qu'on aime beaucoup l'afro.
33 1 84 22 71 71, c'est le numéro du standard. Florent nous appelle d'Accra, il est ivoirien. Bonjour Florent.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un styliste ivoirien. Ah mais très bien, on est ravis de vous recevoir dans l'émission par téléphone, de vous accueillir chez 7 milliards de voisins. Vous êtes un styliste ivoirien au Ghana et vous souhaitez justement nous parler un peu de ces différences culturelles, stylistiquement parlant, concernant la mode entre le continent anglophone et le continent francophone.
Oui, j'ai un peu eu la chance, je suis styliste ivoirien, Florent Moyer. J'ai eu la chance de sortir un peu de la Côte d'Ivoire, j'ai fait un peu de Ghana, des pays anglophones un peu. Donc, dans un premier temps, il y avait une petite différence dans les années 2010, quand j'étais sorti, tu voyais les styles francophones un peu, tu voyais les styles anglophones un peu, mais maintenant, je veux dire que tout est à peu près, c'est plus rapproché maintenant qu'avant, parce qu'avant, quand tu vois les styles francophones, ils sont vraiment bien taillés, les tenues sur mesure, et les styles anglophones, ça fait un peu américain, des bad boys, des
Et finalement, tout ça a tendance à s'uniformiser, c'est ce que vous voulez dire.
Je voulais dire que maintenant, tout est à peu près la même chose, mais il n'y a pas assez de différence. Je veux dire que la mode Avant, il y avait des différences, mais maintenant, il n'y en a plus de différences à plus près.
Oui, d'accord.
Maintenant,
Accra, Abidjan, même combat. OK.
Oui, Accra, Abidjan, à peu près même combat. C'est vrai qu'Abidjan, c'était la maison de la mode, mais maintenant, ce n'est plus la mode en Afrique de l'Ouest. Tout est à peu près même chose.
Merci pour ce témoignage, Florent, direct chez 7 milliards de voisins, styliste à Accra. Daouda nous appelle de Niamey. Bonjour, Daouda.
Niamey. Oui, bonjour, Emmanuel.
Oui.
En fait, j'ai écouté l'émission, je suis un peu intéressé, j'aimerais témoigner. Un jour, je faisais le marché, ce qui m'a un peu surpris. Donc, il y a un groupe de filles qui faisaient aussi le marché, et je les ai trouvés en train, effectivement, de payer des culottes. Donc, derrière ces culottes, pas des culottes ordinaires, derrière ces culottes, il y a des
culottes,
épaules.
D'accord, c'est-à-dire, je voyais, d'accord.
Des culottes,
ouais.
Pour relever les fesses, au fait.
Ah, d'accord, c'est alors, moi, pour donner plus de rebondis,
pour
finalement.
Pour relever les fesses, effectivement. Alors, en passant, moi, j'étais d'abord un peu surpris, je les regardais, je leur ai dit, hey, vous êtes en train de tricher, c'est comme ça? Donc, elle était un peu surprise en me regardant. Et il y a une qui me dit, qui a pris son courage, elle dit, mais c'est à cause de vous qu'on fait ça. Au fond de moi, j'ai dit, quelque part, elles ont raison, parce que honnêtement, Emmanuel, j'ai un petit penchant aussi envers les fesses un peu rélevées. Voilà, j'aimerais...
La dictature des fesses rebondit. Vous voyez à quoi ça mène, hein, tout de même. La tricherie des culottes sur le marché de Niamey.
La mode actuellement... Elle me dit que c'est un peu la mode, même si c'est un secret de polichinelle.
Du moment que voilà. Ça reste que les culottes, parce que quand on triche, il y a beaucoup de femmes aussi aujourd'hui qui se font de la chirurgie esthétique sur les fesses. Elles s'injectent de la graisse dans leurs cuisses, elles prélèvent de la graisse dans leurs cuisses du ventre et elles se les injectent dans les fesses. Ça, c'est beaucoup plus dangereux. Et
ça fond en plus.
Ouais. Au bout d'un moment, oui, c'est vrai. En plus, il y a des retouches.
Bon.
Donc ça va. Du moment que ça reste que des culottes, c'est encore gentil. C'est comme un bandeau bras. Hein. On va pas se cacher. On a toutes essayé de mettre des soutiens-gorge rembourrés.
Les soutiens-gorge rembourrés, en fait, sont un petit peu... aujourd'hui, les culottes rembourrées sont l'avatar des soutiens-gorge rembourrés. C'est-à-dire pour permettre aux femmes d'avoir les seins qu'elles n'ont pas. Mais c'est de la triche. C'est-à-dire, une fois qu'on enlève le soutien-gorge, on se retrouve avec son 80C. Donc, pour les culottes rembourrées aussi, c'est la même chose. Mais ce sont des produits qui viennent d'Europe. Hein. Ce sont des produits qui ont été faits pour les Européennes, en général. Il y a une marque de collant très célèbre qui avait lancé ça même des marques italiennes avec une certaine forme de coupe, par exemple. Plus vous avez les poches des jeans qui sont hautes, plus ça vous galbe les fesses. Donc il y a des filles en ce moment qui cherchent des jeans avec les poches hautes parce que ça met mieux en forme.
Ça crée un effet d'optique aussi,
éventuellement. Ça crée un effet d'optique.
Et tout ça est bien sophistiqué.
Ce jean qui fait des belles fesses, c'est comme la petite robe noire, il faut toute la voir, ce jean belle fesse.
Daouda, en tout cas, on apprécie votre humour parce que vous nous le racontez évidemment avec de l'humour et de la distance et c'est ce qu'il faut, donc.
Ok, merci. Passez une bonne journée.
Voilà. Bon, et pour la Saint-Valentin, alors, vous ne craignez pas si vous avez rendez-vous avec une fille, la déconvenue au moment du rendez-vous intime?
Oui, il est évident que au cas où effectivement je trouve que c'est pas le naturel qui m'a attiré un peu vers elle, ce serait la pire déception parce que ça risque d'impacter sur la suite, ça c'est sûr.
Merci de nous avoir téléphoné, Daouda. Justement, la Saint-Valentin, c'est un peu le marronnier dans le jargon de la presse féminine. Évidemment, mesdames, il y a des articles consacrés à cet événement de l'année, de la lingerie dans les pages de Brune, des déconvenues aussi sur les sites de rencontres pour Gazelle, et puis aussi des interrogations vitales. Quel parfum pour la Saint-Valentin? Vous voulez revenir sur...
Et puis
sur...
des conseils aussi sur pourquoi il ne faut pas fêter la Saint-Valentin.
Oui, alors justement, on peut peut-être en dire un mot?
En fait, il y a beaucoup d'hommes qui se cachent derrière la Saint-Valentin en disant oui mais c'est une fête commerciale, j'ai pas besoin de te prouver mon amour ce jour-là. Voilà, c'est un petit peu comme Noël, on se dit est-ce qu'on doit le fêter ou pas. Moi je pense que il faut jamais rater une occasion de faire plaisir et de se faire plaisir. Et alors on n'est pas obligé d'acheter des gros cadeaux à grande valeur, un rendez-vous en amoureux autour d'un bon dîner et de quelques chandelles fait très bien l'affaire.
Et une jolie déclaration d'amour si possible préparée à l'avance.
Alors je dirais surtout si le dîner n'est pas fait par madame.
C'est vrai. Encore mieux, on l'apprécie
encore. Chez 7 milliards de voisins, à l'approche du 14 février, d'ailleurs, nous poserons la question, peut-on encore croire au grand amour en 2015? Ouais. Il faut.
Ah oui, on n'a pas le choix.
Avant qu'on se quitte, Karima Peroni, il y a un article intéressant dans le magazine Gazelle, puisqu'on parlait beaucoup des cheveux, que c'est un sujet qui intéresse bon nombre de voisines en tout cas. Le duel extension des cheveux contre Cardoun. Alors Cardoun, je ne savais pas, mais c'est un brushing naturel qui est venu de Kabylie. Comment ça marche?
Exactement, voilà, c'est une pratique assez ancestrale. Alors, j'en parlais tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est connu en Afrique subsaharienne, mais c'est quelque chose que vous pouvez nous piquer. Alors en fait, le cardoun, ça veut dire cordon, tout simplement. C'est un cordon qu'on va enrouler autour de ses cheveux, donc il faut avoir une certaine longueur. Et on dort avec. Et en fait, ce faisant, le pli du cheveu qui va être
mèche par mèche.
Voilà, mèche par mèche, ou alors juste une queue de cheval très serrée. Et donc c'est toute la chevelure qu'on va enrouler autour de ce cordon. Et alors c'est très utile aussi quand on a des tissages. Ça permet de pas les emmêler et c'est très très bien pour la santé
toutes les bourses. Hein,
exactement.
Ça, voilà. Si on veut tenter donc le brushing au naturel, le cardoun venu de Kabylie. Merci à vous deux, mesdames. Merci aussi aux voisins et aux voisines qui nous envoient leurs témoignages. Marie-Jeanne Sermat-Thomas du magazine Brune, Karima Peroni du magazine Gazelle. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavola, Jonas Malé-Solars et Didier Cherouz et Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera de l'accès à l'eau courante et à l'assainissement dans les villes africaines. C'est devenu une priorité et avec à la clé d'ailleurs des métiers en pleine expansion. Traiter les eaux usées n'est plus déchoir, nous dirons. Nous en parlerons avec nos invités de passage. Ils viennent de Niamey et d'Abidjan. Ils seront là en direct chez 7 milliards de voisins demain. Et bien sûr, les voisins, vous nous appelez pour nous parler de l'état de l'eau et de l'assainissement dans vos villes. Surtout, vous nous téléphonez dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 et vos témoignages sur les réseaux sociaux. À demain.